C'est un peu comme si la pluie tombait. On entend ce bruissement. Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous étiez là la dernière fois lorsque nous avons pénétré dans le musée d'anthropologie de Mexico? Eh bien, il y avait ce parapluie incroyable au centre, l'Axis Mundi, avec un gros jaguar tapis au niveau du sol dans du métal. C'est une sculpture moderne extraordinaire. Et puis, vous montez jusqu'au soleil, le soleil de midi. On a vraiment l'impression de voir que le monde, chez les précolombiens, chez les Aztèques en particulier, était très structuré. Vous êtes dans la cour de cet incroyable musée. Oh, il y a le bruissement de l'eau, je le disais, parce qu'il y a cet incroyable carré qui est posé en-dessus de votre tête, qui n'est pas du tout suspendu aux différents bâtiments qui se trouvent autour de nous. Non, il est vraiment tenu par cet axis Mundi que j'évoquais, cet énorme mât qui doit faire quelque chose comme 2 mètres, 2 mètres 50 de diamètre à la base. Et puis, au sommet, il y a un arc de cercle double comme cela, bien découpé, avec cette pluie qui tombe doucement. Bien sûr, on fait monter l'eau et puis elle redescend. Quand il pleut, il y en a un peu plus. C'est vraiment une façon de faire comprendre que rien n'a pu naître au Mexique sans... Bah tiens, si on pénétrait dans la salle d'introduction, là, à droite. Oh, juste avant, on voit autour de soi des poèmes écrits sur les murs. Le Popol Vuh. Qu'est-ce que c'est que ça, là? La Bible Maya des Quiché du Guatemala. Ah, un poème de Netzahualcoyotl qui nous parle que tout un jour se brise. La plume se déchire, le jade. Et oui, un jour tout arrive à sa fin. Et il y a un peu cette idée-là. Lorsqu'on pénètre dans le monde précolombien, on s'imagine ce qu'est la vie et la mort. On devient... Rappelez-vous quand nous étions enfants, la première fois qu'on lisait les histoires d'Apache ou de Sioux, il y avait l'espace, la nature, les dieux, mais les dieux qui tous étaient en reflet de cette même nature, qui étaient en reflet qui nous faisait penser qu'il y avait des esprits, qu'il y avait des choses magiques autour de soi. Eh bien, l'Indien précolombien a vécu comme cela. Je disais qu'on rentrait dans la salle, vous y allez? Ben, vous voyez, c'est une salle où le premier choc à l'entrée, c'est une grande fresque. Une grande fresque où l'on voit des personnages à moitié habillés, avec des peaux de bête, qui portent juste un genre de javeline ou de lance sur l'épaule. Et puis, tout à l'horizon de la peinture, vous voyez une sorte de chaîne de montagne, comme ça, toute blanche. Il y a de la glace un peu partout. Et on aperçoit quelques mammouths et quelques animaux préhistoriques. Ben oui, on est aux environs de, je ne sais pas, 25 000 ans, 50 000 ans avant notre ère. C'est le moment où ces gens-là se sont mis à marcher. Parce que quand vous cherchez votre garde-manger et qu'il est sur quatre pattes, obligatoirement, vous devez le suivre. Et en l'occurrence, vous pouvez très bien arriver depuis la Sibérie. Et là, tout à coup, vous, sans le savoir, vous venez de découvrir le détroit de Bering. Vous l'avez passé sur des ponts de glace incroyables. Et puis, vous avez petit à petit envahi ce nouveau continent. Sans le savoir, avec vos yeux bridés, avec... Est-ce que vous savez que tous les Amérindiens, comme les gens d'Asie, ont quelque chose de très curieux à la naissance? Oui, une tache. Une petite tache. On l'appelle la tache mongolique, d'ailleurs. Une tache qui apparaît... Où est-ce que je vais vous la placer? Au bas du dos? Oui, juste en dessous des fesses, comme ça, là. Juste au début de la colonne vertébrale. Et là, c'est une tache qui peut... Oh, ça peut atteindre le volume d'une pièce de 5 francs. Elle est un peu violacée, comme ça. Elle reste plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois, et puis elle disparaît. Et bien, chaque fois que j'ai vu un petit Indien naître en Amérique indienne, en Amérique latine, il avait, en général, cette tache. Ceux qui ne l'ont pas sont déjà un peu d'origine européenne, c'est-à-dire celui qui a vraiment du sang indien, du sang asiatique, va naître avec cette tache dans le dos. Et puis, il aura certainement un groupe sanguin qui est plus proche du groupe O. Qu'est-ce que je pourrais vous donner encore? Bah tiens, regardez les yeux, là. Ils sont vraiment bridés de façon curieuse. Ils n'ont pas du tout la même paupière que nous, et il y a cette façon assez fantastique de plisser l'œil, comme si on devait le protéger des intempéries, du sable, je ne sais pas, des déserts, de la région sud de Sibérie ou même de Mongolie. On est effectivement totalement asiatique. Et là, on arrive, je ne sais pas, j'ai dit 50 000 ans, c'est une date peut-être un peu trop ancienne, mais enfin, tout recule en ce moment dans l'histoire de ces Indiens d'Amérique. Et le grand changement, mais c'est justement dans cette salle d'introduction qu'on va le ressentir, parce que là, on va nous placer face, j'ai dit mammouth, oui, on en a retrouvé, qui remontait à peu près à 10 000 ans avant Jésus-Christ, ou en tout cas 8 000 pour les derniers survivants de ces grands mammifères. Et je m'imagine très bien, on a fait d'ailleurs une maquette là dans le coin de la salle, qui est extraordinaire. Comment vous faire la scène? Eh bien, vous imaginez un lac de boue comme ça, une région au moment où les réchauffements commencent, il y a toujours une saison où la glace n'est pas aussi présente. Et vous avez une trentaine d'hommes autour d'un mammouth avec des pieux et qui essayent vraiment de maintenir le garde-manger en place, ou plus exactement de le faire tomber, de le faire mourir. Ben, moi, je trouve que c'est une époque idéale, franchement. Essayez d'imaginer. Là, vous êtes 20 ou 30, vous avez une petite tribu derrière vous, vous êtes encore nomade, et tout à coup, vous vous trouvez avec quelques tonnes de viande. Oh, ça peut faisander un peu, pourquoi pas, mais dans 6 mois, il y aura encore quelque chose à manger, à mon avis. Donc, c'est une époque bénie, franchement. Un jour de boulot pour 6 mois de nourriture, ça devait être à peu près l'idéal pour moi à la préhistoire. Bon, on a toujours ces scènes où on tire madame par les cheveux, etc. Mais je pense qu'effectivement, lorsqu'on vivait encore dans des grottes, dans des huttes qui étaient faites de branchages et de quelques peaux de bêtes, ben, bizarrement, le temps devait avoir son temps. Et c'est seulement en 8000 que la première catastrophe écologique s'est produite. Alors, il suffit de regarder ces cartes et ces périodes climatiques pour se rendre compte qu'effectivement, à ce moment-là, c'est la fin de la glaciation de Worms. Et c'est le nom qu'on lui donne en Amérique. Et là, en l'occurrence, tout à coup, tout va commencer à fondre. Hein. C'est la banquise qui s'en va, quoi. Le détroit de Bering qui, tout à coup, redevient haut. Et obligatoirement, les migrations s'arrêtent. Je crois que les derniers arrivés, vous les connaissez peut-être, ce sont les Inuits, enfin ce qu'on appelle les Esquimaux, qui eux vont peupler toutes ces terres du Nord, au Canada, jusqu'au Groenland, etc. Ils sont aussi asiatiques, bien sûr. Mais les premiers qui sont arrivés, je ne sais pas, en 18, 20, 30 générations, ont réussi déjà à toucher la terre de feu et à descendre jusque tout en bas des Amériques. Elle est peuplée. Elle est nomade, et puis tout à coup, je ne sais pas, je vais tirer un trait, pourquoi pas. Vous voyez où se trouvent les États-Unis, vous voyez où se trouve la fin des États-Unis à l'époque où ils étaient encore mexicains, c'est-à-dire tout ce qui a un nom un peu hispanique. Vous partez de la Californie, vous allez jusqu'en Floride, à l'autre bout, vous tirez un grand trait. Et vous allez voir que curieusement, dans nos contes d'enfance, dans nos amusements d'enfance, on voyait toujours des cowboys et puis des Indiens qui étaient déjà montés sur des Mustangs, enfin les chevaux qu'ils avaient ramassés dans la plaine et qui avaient été perdus par un Espagnol, parce qu'il n'y a plus de chevaux depuis 8000 ans avant Jésus-Christ, ils ont tous disparu. C'était des petits animaux un peu comme ceux qu'on voit dans les grottes de Lascaux, et là ils ont disparu. Et notre mammouth, bien sûr, va disparaître. Mais si j'ai tiré ce trait, c'est simplement parce qu'il y a un animal qui ne disparaît pas, justement, et qui fera le délice de notre enfance, et surtout le délice de Buffalo Bill, c'est bien sûr le bison. Le bison qui a vécu dans toutes ces grandes plaines des États-Unis par millions, par troupes absolument incroyables. C'était véritablement un fléau au moment de la conquête de l'Ouest. On les a naturellement exterminés, mais on les voyait toujours en troupeau de milliers de bêtes qui transhumaient, qui passaient d'un coin à l'autre. Alors vous avez votre tente indienne et votre simple tipi et vous n'avez qu'à suivre. Donc on reste nomade en dessus de la ligne que je viens de tirer. En dessous, en moins 8000, il n'y a plus rien. Ou plus exactement, on va pouvoir conserver tout à fait par hasard, au fil des ans, au fil des millénaires, on va garder peut-être, qu'est-ce que j'ai envie de vous garder dans votre basse-cour ? Un dindon ? Ah ben oui, on l'appelle la poule des Indes, vous savez, c'est effectivement ce dindon qui au départ est un dindon sauvage, qui ressemble plutôt à un paon, on le voit encore dans les forêts tropicales du Guatemala. Et le dindon que vous connaissez, le glou-glou-glou très particulier, avec sa crête rouge et son espèce de barbichette curieuse qui descend en dessous du bec, eh bien celui-ci est d'origine mexicaine. On l'appelle d'ailleurs guajolote, on aime bien imiter un peu le nom des glou-glou que j'évoquais tout à l'heure. Et qu'est-ce que je pourrais vous trouver d'autre ? Ben, il y a un petit chien qui va être conservé, un petit chien qui est... Bon, il n'est pas très grand, il sera à peu près la grandeur d'un caniche, mais il est sans poils. Il tremblote un peu comme une levrette, il a une couleur brun, chocolat, pas très appétissant comme ça, avec une petite tête de fouine assez sympathique, les oreilles un peu pointues. Et il avait l'avantage, à l'époque précolombienne, de pouvoir être engraissé. C'est-à-dire qu'en fait, on lui donnait un maximum de choses à manger, on le gardait comme un chien, quoi. La seule différence avec le nôtre, c'est qu'il n'aboie pas. Et c'est vrai qu'il a été très surpris de voir les gros dogs espagnols dans les années 1500 qui déboulaient sur ces nouvelles terres d'Amérique, parce qu'il n'y avait pas de comparaison entre le chien indien et le chien d'Europe. Et ce chien, je disais qu'on l'engraissait parce qu'effectivement, on a pris très vite l'habitude de le manger, un peu comme on le ferait pour un petit cochon qu'on garderait dans sa basse-cour. Qu'est-ce que vous auriez d'autre ? Ah ben, si vous êtes au sud, bizarrement, il y avait une toute petite abeille qui existe encore. On l'appelle d'ailleurs Maya l'abeille, celle qui vit au Yucatan et qui produisait un miel excellent d'ailleurs, mais qui est une abeille beaucoup plus douce. Je veux dire, même aujourd'hui, à part celle qui est venue du Brésil et qui a tout bousillé, vous savez qu'il y a une abeille assez curieuse, une espèce de mélange comme ça entre une abeille brésilienne et une abeille africaine. Qui a été faite en laboratoire. Moi, je trouve ça assez scandaleux. Et puis, malheureusement, quelqu'un a levé le couvercle de la boîte et un petit essaim s'est échappé du Brésil et il est en train d'envahir toute l'Amérique. Une abeille absolument incroyable. Elle vient d'ailleurs d'atteindre les États-Unis et c'est peut-être là qu'on commencera à bouger, mais on se rend compte que c'est très, très difficile de se défendre contre cette nouvelle variété parce qu'elle a une agressivité absolument incroyable. C'est un essaim entier qui rentre dans une ruche indigène, qui bousille tout, qui ne supporte pas la promiscuité, il faut mettre des voiles pas possibles pour la traiter parce qu'elle vous attaque, elle vous pique, elle a même tué des centaines de personnes depuis qu'elle est en liberté. Elle produit bien, d'accord, mais enfin, elle est en train de transformer toute l'écologie et toute l'apiculture de l'Amérique. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur les abeilles du Brésil, mais c'est pour vous montrer que les petites Maya, l'abeille, ben oui, elles sont justement très douces comme on les voit dans le dessin animé. Et qu'est-ce que je pourrais vous trouver d'autre pour l'Amérique sur le plan domestique? Il ne reste pas grand-chose en moins 8000. Ah ben oui, si vous descendez dans le sud, du côté des Incas, il y aurait quelques camélidés qui vont être conservés. Parce qu'on avait un chameau qui devait faire 3,50 m à 4 m de haut. C'était vraiment un géant absolu. Il y avait des ours qui arrivaient jusqu'à 5-6 mètres. On avait le tigre des sables. On avait des animaux comme le mastodonte, le mammouth que j'évoquais. Enfin, si vous voyez la troupe, on l'a remise là sur la fresque à l'entrée de la salle d'introduction du musée d'anthropologie. La troupe des animaux précolombiens et préhistoriques surtout, ben c'est à vous faire peur. Hein. C'est vraiment le cauchemar. Même si je disais que le garde-manger était toujours plein, il y en avait quelques-uns qui étaient capables de vous dévorer aussi. Hein. En l'occurrence, je disais dans le sud, il reste que quelques camélidés. Comment est-ce que je vais prendre le premier? Ben, je dirais que c'est le guanaco. Le deuxième, ce serait le lama. Là, je prends par ordre de grandeur et d'importance le lama qui crache toujours, hein, comme on le voit toujours avec le capitaine Haddock. Si je prends la taille inférieure, c'est l'alpaca. J'en porte toujours sur moi. J'en ai maintenant, là, parce que c'est très doux. C'est une laine agréable qu'on peut mettre en toute saison, surtout l'alpaca baby. Donc, on l'a toujours utilisé pour cela, chez les Incas, bien sûr. Et puis, le lama supporte 20 à 25 kilos s'il est vraiment de bonne humeur et qu'il ne crachote pas trop. On peut en faire des caravanes extraordinaires, comme l'ont fait les Incas. Et puis, la dernière, c'est la mignonne, comme ça, la toute belle, celle qui est presque interdite aujourd'hui, je veux dire par là, qui vit dans des réserves. Oh, il y a des évocations assez fantastiques quand on parle de la vigogne. La vigogne, c'est la douceur même, c'est la laine la plus incroyable du monde, même le cachemire en est jaloux. Et en l'occurrence, à l'époque inca, la vigogne était tellement sacrée qu'elle appartenait à l'inca lui-même, c'est-à-dire le chef de l'ensemble de ce qu'était cet empire. Et pour prendre la laine des vigognes, eh bien, à l'époque, on avait même le culot de dire aux gens du peuple « Donnez-vous la main. Faites une sorte d'immense file indienne comme ça. » Et sur un territoire entier, comme le canton de Genève, on se tenait la main et petit à petit, on resserrait le cercle. Et on maintenait toutes les vigognes au centre. On avait le droit de les tondre et on les relâchait après. C'était uniquement la laine qui allait servir à vêtir, je ne sais pas, l'inca ou les femmes choisies. Enfin, la grande noblesse incaïque. Et ces animaux sont sauvages, ils n'ont jamais été véritablement domestiqués. Elles vivent en troupe comme ça, elles sont belles, elles ont ce côté camel comme ça, ce ton jaune et puis ce petit rien sous le cou avec un soupçon de blanc comme ça, ça bouge dans le vent. Enfin, c'est d'une délicatesse incroyable. Ben voilà que j'étais parti au fond du Pérou pour chercher encore un animal domestique. Il n'y a plus grand chose d'autre. Vous aurez quelques cerfs qui vont courir dans la campagne. Qu'est-ce que je peux encore vous donner à manger? Bon, ben, si vous voulez vraiment faire du spécial, vous pouvez manger du singe, du crocodile, même du jaguar si ça vous fait plaisir. Mais en fait, il n'y a plus rien dans les basses-cours. Et il y a une sorte de faim qui s'installe, hein, moins 8000. Cueillette, allez-y, vous verrez, il n'y a pas grand-chose non plus. Quelques petits fruits, quelques champignons, un peu de chasse, un peu de pêche, bien sûr. Et là, tout à coup, l'homme va commencer à chercher une solution. Il va trouver une toute petite plante, une plante qui fait, oh, je prends mes deux doigts, là, ça doit bien faire 2 à 3 cm de hauteur avec des tout petits grains. Et cette plante fonctionne à l'état sauvage, c'est vrai, mais l'homme s'est rendu compte que s'il s'en occupait, qu'il la plantait lui-même, qu'il la reprenait comme dans une sorte de laboratoire où le temps n'a pas de mise, eh bien, en quelques millénaires, il va pouvoir créer plus de 1500 variétés de cette plante. Vous y êtes? C'est le maïs, bien sûr. Le maïs qui est la nourriture de base de tous les Indiens d'Amérique. Et quand je dis maïs, moi, immédiatement, j'entends le tapotement des femmes qui préparent les tortillas, parce que c'est facile. La découverte suivante, je dirais que Comment est-ce qu'on peut analyser le maïs? Vous avez déjà pris un grain de maïs bien sec, vous l'avez laissé pousser, vous avez fait une petite pyramide pour qu'il soit content, vous l'avez laissé pousser, et lorsqu'il est vraiment mûr, vous cassez le haut pour que l'épi sèche sur sa canne. Et en l'occurrence, une fois qu'il est vraiment très dur, très sec, il est consommable. Alors vous allez me dire, ça devient trop dur, justement. Et pour pouvoir en faire quelque chose, on ne va pas le transformer en farine comme on pourrait l'imaginer pour du blé, du seigle ou de l'avoine. Non, non. Ce maïs-là, eh bien, on le met dans une grande jarre avec de l'eau, bien sûr, et on rajoute une bonne, carrément le point ou la moitié du point en quantité de chaux. De la chaux qui, elle, va, en cuisant 3-4 heures, ramollir la cosse du maïs. Vous avez déjà fait des pop-corns, hein, quand ça saute dans la poêle, on se rend bien compte que la partie jaune est restée extrêmement dure. Et d'ailleurs, si on se casse les dents sur les derniers pop-corns qui sont au fond de la casserole, on se rend compte que c'est très très dur. Alors, pour ramollir cela, eh bien, cette chaux va travailler comme cela pendant plusieurs heures. Elle va pénétrer un peu le maïs, bien sûr. Elle va même transformer sa chimie intérieure. Et ce qui est curieux, c'est qu'ensuite, on passe ça naturellement, on ne va pas consommer la chaux, vous l'imaginez bien, on enlève l'eau, on passe ça on prend une passoire en terre, en tout cas à l'époque précolombienne. Tiens, on en voit dans la salle là. Et ensuite, il y a l'instrument qui deviendra le plus précieux de l'Indien et qu'on voit encore dans toutes les cours des petites communautés, puisqu'on vit beaucoup dehors et que la hutte suffit à peine à dormir ou à tirer un hamac selon les régions qui ont été influencées par les Caraïbes. Eh bien, on va tout simplement installer le metate. Le metate, c'est un instrument de pierre à trois pattes, avec une forme inclinée. Essayez de vous imaginer une chaise Le Corbusier, un peu comme ça, vous savez, ces formes très très douces. Et dedans, vous mettez une grosse main. On appelle ça une main, mais en fait, c'est une grosse barre de pierre bien taillée. C'est du basalte en général. Un basalte qu'on ne trouve que dans certains villages. Il faut une qualité de basalte, il faut une qualité de roche, pour que justement cette main que vous tenez des deux mains puisse rouler, ou plus exactement glisser à l'intérieur de cet étrange siège arrondi. Comme ça, cette espèce de cuvette extraordinairement lisse. Et là, eh bien, vous mettez votre maïs en grain et vous l'écrasez petit à petit. Ça vous prendra du temps, mais vous allez obtenir une pâte extrêmement dense, extrêmement, pas collante, non, pas vraiment, mais je dis dense parce qu'elle a une matière qui est beaucoup plus forte que si vous aviez pris de la farine et de l'eau. On arrive tout à coup à ce qu'il faut pour en faire une galette, justement. Alors après, vous en prenez juste une petite poignée. Une fois que vous avez terminé votre œuvre, vous avez déjà un peu... hacher tout cela, enfin transformer en massa, on dit masse justement, la traduction est bonne, et vous mettez ça dans le fond de votre main, vous en faites une petite boule et vous commencez justement à tapoter, et ce bruit tellement caractéristique, vous le sentez, ça tourne, on est en train de faire la galette elle-même, au moment où elle est bien souple, qu'elle a déjà pris la forme, ben, je sais pas, d'un gros CD comme ça, vous la déposez calmement sur un comal. Le comal, c'est de la simple terre cuite posée sur trois pierres au milieu de votre hutte. Vous sentez, il y a une odeur de fumée, de pain peut-être, mais il y a aussi cette odeur, là je parlais bien sûr de cette odeur du bois, mais il y a tout à coup cette odeur de maïs qui monte. Vous allez en manger, qu'est-ce que je vais dire? Ben là vous allez vivre maintenant, l'agriculture est née, peut-être 1 kilo par jour et par personne. Ces tout petits grains que j'évoquais tout à l'heure, un peu brûlés dans un foyer, comme cela, dans une grotte du côté de Tehuacan, ça remonte à peu près à 6000 avant Jésus-Christ. Donc il a fallu quand même quelques siècles avant de s'adapter. Et puis il y a un autre site qu'on a découvert dans les années 40 qui a été bouleversant et qui maintenant est considéré comme, je dirais, le site métropolitain, enfin je dirais la cité mère, ou en tout cas un des sites majeurs de cette toute première grande civilisation. Ça se trouve, je vais vous mettre dans l'ambiance, là, on va changer complètement. Vous imaginez de la boue, un peu partout. Vous imaginez 260 jours de pluie par année. mais de la belle pluie, de la bonne pluie tropicale. Vous êtes dans le creux du golfe du Mexique, là tout en bas, dans une région, wow, je vais dire la Venta, mais c'est entre Villahermosa et Veracruz, enfin dans cette zone la plus impossible. Je ne sais pas, les moustiques ressemblent à des avions. Vous avez une ambiance vraiment où, à ne pas mettre un pied, à ne pas mettre le nez dehors, et puis tout dégoûte comme ça, les feuilles sont humides. C'est vraiment la jungle qui vous pénètre comme ça, qui vous... même en pirogue, on est mal à l'aise. Même en radeau, on se sent un peu bizarre. Il y a des mangroves partout, ça grouille, des alligators. On est presque sûr de se faire arnaquer par le premier des jaguars venu en pleine nuit. Il y a des chouettes avec des formes absolument étranges. La journée, vous voyez des aigles harpies avec une dimension incroyable qui planent sur la jungle. Enfin, une ambiance comme ça de contes de fées revues et corrigées, avec ce côté humide et tropical, un côté Indiana Jones incontestablement, et puis des rivières partout, des marais partout, la mer pas très loin, et je disais la boue parce qu'il n'y a que de la boue. Il n'y a que de la boue et ces 260 jours de pluie par année. Bien sûr, il y a la chasse, je viens de l'évoquer. Naturellement, il y a de l'eau, donc il y a la pêche. Il y a encore quelques fruits tropicaux, quelques fruits bizarres, quelques fleurs étranges, quelques arbres fantastiques. Et là, tout à coup, vous vous dites, mais oui, je suis dans un pays de luxe. Je suis dans un des endroits les plus incroyables de la Mésoamérique, puisqu'on l'appelle comme ça, cette Amérique du milieu qui est en train de naître. Oublions cette frontière des États-Unis. Vous avez toutes les terres sèches et plus difficiles des hauts plateaux. J'ai trouvé mon premier grain de maïs, là, à Tehuacan, à 2000 mètres d'altitude. Mais tout à coup, la première véritable culture va naître dans cette espèce de serre. Vous avez tous été un enfant. Vous vous rappelez de la petite lentille que vous avez mise, je ne sais pas, sur un petit rien de watt, et cette watt, dans un verre, vous l'avez placée sur le radiateur et vous avez attendu. Et chaque matin que vous vous leviez, quelque chose de nouveau s'était passé. Ça avait passé du blanc au vert, et puis tout à coup, la petite plante de lentille était sortie, avait pris sa direction, les racines étaient descendues dans la ouate humide. Ben, c'est un peu ça qui se passe dans cette région. Vous imaginez le premier grain de maïs que vous plantez, et tout à coup, cette magie fait qu'en le posant dans la boue, avec ses 260 jours de pluie, avec cette chaleur tropicale, avec ce soleil qui est là après chaque averse, eh bien, obligatoirement, vous arriverez à 2, voire 3 récoltes de maïs par année. Il faudra même inventer des méthodes nouvelles pour enlever l'eau. C'est-à-dire que, un peu comme ma ouate, vous avez remarqué que pour qu'elle pousse bien, qu'elle ne pourrisse pas par la suite, il faut qu'il y ait un certain niveau d'eau. Eh bien là, vous allez inventer dans la jungle des sortes Oui, c'est déjà des chinampas, ce sont déjà ces espèces de radeaux artificiels, ou plus exactement, cette boue a été remise à quelques centimètres en dessus de l'eau, et au moment où il pleut trop, eh bien, l'eau s'en va dans les canaux adjacents et puis repart vers la mer. Donc vous allez créer une sorte d'économie de l'eau, un peu comme on le ferait dans une rizière, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'en mettre, on en enlève. Et on l'a remarqué d'ailleurs, de façon tout à fait contemporaine, que pour le riz, qui est nouveau venu, qui vient d'Asie, bien dans la région du Tabasco, dans la région du Chiapas, dans ces régions justement très tropicales, ou même dans le Veracruz, eh bien en utilisant des bulldozers aujourd'hui, en refaisant des surfaces incroyables, en imaginant ces canaux, en les creusant sur les côtés, eh bien on arrive à épargner l'eau qui serait en surplus, et le riz produit ici, ben, il est non seulement plus gros, mais on en a souvent 2 à 3 fois plus que dans toutes les autres terres du Mexique où on en produit depuis quelques dizaines d'années. Donc c'est une nouvelle révélation, et d'ailleurs une révélation qui nous est arrivée tout simplement par satellite. C'est-à-dire qu'il a suffi de quelqu'un de la NASA qui prenne des photos de la côte de Veracruz et toute cette région du Tabasco, et tout à coup on s'est dit c'est pas possible. Il y a 3000 ans, tout était agriculture. Il y a 3000 ans, les canaux étaient là. On avait déjà tout structuré. L'agriculture dans des régions où personne n'y a encore vraiment mis les pieds aujourd'hui existait. Donc des milliers et des milliers d'hectares avaient été déjà pris à l'ennemi nature et végétation pour créer cette première civilisation. Alors vous pensez bien qu'au moment où je commence à remplir un grenier, tout à l'heure, j'ai mis le maïs, mais vous verrez qu'il suffira de rajouter, je sais pas, en altitude, quand vous mettez un maïs, vous plantez simplement un pieu en terre, vous attendez la saison des pluies, comme on l'attend chez nous, et dans ce trou, vous mettez quelques grains de maïs, et puis ensuite, vous faites une petite pyramide parfaite autour, pour le protéger, vous attendez que le miracle intérieur se produise, là, on a déjà une divinité qui est en train de faire son boulot, et puis, vous allez peut-être ajouter quelques graines de courge, quelques graines de haricots, et tout cela va se mettre en route, le maïs va monter tout droit, le haricot va tourner autour, la courge va ramper par terre, et au pied de chaque pyramide, vous aurez pratiquement la nourriture précolombienne. Ah d'accord, 1 ou 2 piments en supplément, et vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour manger. Et quand je parle de cela, c'est important parce que le miracle de tout à l'heure, c'était la chaux. cette chose qui va transformer chimiquement. Là, je l'ai étudié il y a quelques années, mais je sais qu'il y a un changement nutritionnel important au moment où on met la chaux. Et bizarrement, avec un peu de maïs, 1 kilo par jour, comme je le disais, un peu de courge que vous additionnez, ces haricots que vous mangez en purée, on en mange encore dans toute l'Amérique latine, qu'ils soient rouges ou qu'ils soient noirs. Et je disais un peu de piment, ben, vous pouvez rajouter quelques petits riens. Et ben, vous verrez qu'avec le sel que vous allez découvrir un jour et qui sera un produit de luxe qu'on exportera, je ne sais pas, de Chichen Itza ou des grands sites qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, vous avez pratiquement toute la diète de base, avec un tout petit peu de viande pour les fêtes, un petit oiseau qui vole, un petit poisson qui plonge. Vous avez ce qu'il faut. Donc, c'est bien dans ces marécages que va naître la civilisation. Alors, moi, ce que j'ai recherché au cours de ces dernières années, c'était de savoir d'où venait le début de... Oui, la petite graine de départ, est-ce qu'elle est vraiment ici au Mexique? Et puis tout à coup, on regarde la carte de l'Amérique et on se dit qu'il y a un autre endroit absolument fou qui ressemble à celui que je viens de vous décrire. C'est l'Amazone, bien sûr. L'Amazone qui, curieusement, on commence à l'étudier maintenant, aux alentours de 8000 avant Jésus-Christ, n'était pas du tout ce qu'on croit. L'Amazone, c'était des zones très humides avec des îles sèches. Et il y avait naturellement des rivières aussi impressionnantes que l'Amazone, que vous connaissez, qui est un des plus longs fleuves du monde, avec ses 6000 km de serpents qui descendent doucement vers l'Atlantique, et qui partent des Andes, bien sûr, dans cette région, ce que j'appelle des forêts de pluie. Et là, effectivement, c'est peut-être là que les premières tribus se sont installées de façon non seulement économique, mais politique, où il y a eu des chocs, il y a eu... Moi, je prends toujours l'exemple des Jivaros. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un Jivaro de près, mais il y a quelques dizaines d'années, c'était dangereux, hein, dans la mesure où ils avaient une manie, c'est de vous couper la tête pour la porter en bandoulière. Je m'explique. Les Jivaros sont des coupeurs de tête, étaient des anthropophages, bien sûr, mais ils avaient cette curieuse habitude de trancher les têtes de leurs ennemis, et systématiquement, un homme devait aller chercher un autre homme ailleurs, dans une autre tribu, pour obtenir sa tête trophée. Et ce qui est curieux, c'était cette coutume de vider l'intérieur. Hein. Oh, je sais bien, c'est pas très ragoûtant, mais enfin, essayez de garder la peau uniquement. Mais avant de vider l'intérieur, vous aurez déjà fermé les yeux avec des épines, vous aurez fermé la bouche, vous aurez fermé les oreilles, vous ne gardez que le cou. Vous y êtes, vous avez une sorte de sac hein, qui va devenir un peu plastique, comme ça, qui va devenir un peu caoutchouc. La peau est molle, elle est encore douce. Et à partir de là, une fois que vous avez extrait tous les os, toute la chair, tout le cerveau, eh bien, obligatoirement, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de glisser à l'intérieur du sable chaud. Vous l'aurez ébouillanté comme ça, enfin, vous l'aurez mis sur le feu, sur une plaque, et puis vous versez votre sable à l'intérieur du cuir. Et vous allez voir, le cuir commence à se rétrécir petit à petit, et vous allez avoir une tête réduite au bout de quelques temps. Vous le faites ça plusieurs fois, elle aura à peine la grandeur d'un poing d'enfant. La seule chose qui va rester, vous le savez, c'est justement les épines qu'on a plantées au départ, qui sont toujours aussi grandes et un peu aberrantes, comme ça, qui donnent une tête absolument incroyable. Et puis, naturellement, la longue chevelure qui est restée d'origine. Et ces Indiens avaient effectivement des cheveux qui peuvent atteindre 40, 50 centimètres, en tout cas. Et d'ailleurs, tous les précolombiens avaient cette manie d'attraper les autres par les cheveux. C'est-à-dire, au moment où vous attrapez quelqu'un par les cheveux, vous lui prenez son pouvoir. Et un Aztèque avait même un geste absolument fou. Au moment où vous l'attrapiez par les cheveux sur le champ de bataille, on ne cherchait pas à tuer. Eh bien, l'homme vous tendait la main. Il devenait votre frère. Il devenait votre frère, ben oui, cette façon de tendre la main faisait qu'un jour vous lui tendrez la main aussi pour monter sur la pyramide et terminer sa vie en sacrifice. C'est un peu la même idée. Vous voyez que dès l'origine, aux alentours de 7-8000 avant Jésus-Christ, je suis sûr qu'on avait déjà cette idée de la tête trophée, on la retrouve un peu partout. Et cette tête trophée, eh bien, il suffit de la mettre. Moi, j'ai l'habitude de porter mes clés en les accrochant à ma ceinture, hein, puis je les laisse glisser dans ma poche. Eh ben, c'est un peu comme ça qu'on porte la tête trophée, un peu comme un netsuke chez les Japonais. C'est-à-dire que vous le placez simplement à la ceinture, avec les cheveux, c'est facile, et cette tête ballotte et traîne en votre compagnie pendant une année. Je dis une année parce qu'on va choisir un circuit de temps, on va choisir une longueur de vie de cette tête. Vous l'avez compris, j'ai fermé toutes les issues. Je viens de fermer le cou. À l'intérieur, mentalement, il n'y a que du vide. Donc l'esprit du guerrier qui a été conquis est encore à l'intérieur. Le pouvoir de l'autre, vous le portez vous-même en bandoulière, vous le portez à votre ceinture. Le jour où vous estimez que le temps est passé et que l'âme s'est envolée, que ce pouvoir s'est envolé, oh, vous pourriez la vendre à n'importe quel touriste. Là, vous êtes en Amazone. Là, vous êtes dans un milieu où ces gens ont pris l'habitude d'avoir ces formes conflictuelles. Et puis tout à coup, lorsqu'on perdait un chef, on allait chercher un autre chef. C'est-à-dire qu'on change changeaient de tribu. Ce sont des gens qui sont à la fois sédentaires et presque voyageurs. Et regardez à l'horizon, il y a la forêt de pluie dont je parlais, vous montez. Rappelez-vous du début du film, là, de... Je ne sais plus comment il s'appelait, cet Allemand qui a fait ce film extraordinaire sur la descente de l'Amazon, là, où l'on voyait ces descentes très douces, et puis on imagine Machu Picchu. Maintenant, vous êtes un peu plus haut, là, du côté de l'équateur, parce que ma main qui s'est étendue, ce sont les chaînes de montagnes qui représentent, qu'est-ce que je veux dire, la Colombie, vous y êtes ? Ouvrez votre main. Là, vous avez des petites chaînes qui glissent doucement vers l'Atlantique et vers le Pacifique et qui font Panama, avec l'annulaire, par exemple. Et puis ensuite, vous avez un poignet, parce que la cordillère est moins haute du côté de l'équateur. Et ensuite, vous avez le bras, qui est immense et qui monte jusqu'à 7000 mètres du côté du Chili, du Pérou, etc. Jusqu'en bas, en terre de feu. Eh bien, c'est par ce petit poignet que vous allez passer. Vous sortez de cette immense mer de verdure qu'est l'Amazone et vous atterrissez involontairement du côté équatorien tropical. La seule zone tropicale qui existe, elle se trouve de l'autre côté du poignet. Et là, curieusement, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, on a commencé à retrouver des poteries incroyables. On a commencé à trouver des sacrifices humains, des petites huttes un peu exaucées. On a trouvé quelques trésors de base, des offrandes, des enterrements. On s'est dit, ça y est, il y a 2500, il y a 3500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, on avait déjà réussi à créer la première civilisation. Valdivia, l'Équateur, cette zone tropicale, c'est peut-être là qu'est née l'Amérique précolombienne. Des bâtons de pluie, une ambiance de jungle, un peu comme cela. Oui, cette ambiance indienne, vous les avez vus avec leurs plumes, avec peut-être déjà leurs premiers arcs, mais en tout cas leurs javelines. Ils ont chassé, ils ont fonctionné dans cette immense, je dis mer de verdure, parce que il y a quand même quelque chose de curieux. Moi, chaque fois que je me perche sur les Andes, je mets ma main gauche du côté Pacifique et je dis infini. Et je mets ma main droite du côté Amazone et je dis infini. Une mer d'eau et une mer de verdure. Et vous êtes entouré de cela. Alors je passe ce poignet et je suis nouveau dans la verdure. Mais une verdure plus confortable, moins infinie, moins conflictuelle peut-être. Et c'est là que ces premières civilisations vont naître. Mais je sais que demain on trouvera dans un simple virage de l'Amazone, comme on est en train de le retrouver du côté de l'embouchure, les premières bribes de civilisation américaine. C'est-à-dire, quand je dis 3000-3500 avant Jésus-Christ, attention, on n'a jamais été aussi en arrière dans le temps. Jamais on n'aurait osé imaginer, il y a moins de 10 ans, qu'on pourrait déjà créer des choses parfaites aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ, comparé avec l'Égypte, comparé avec la Mésopotamie, comparé avec l'Indus, les grandes civilisations hydrauliques, je veux dire, bien sûr, le Tigre et l'Euphrate, le Nil, c'est un peu comme si j'imaginais mon Amazone ou la région de Guayaquil, ou ces marécages de la Venta et de la zone Olmèque au Mexique. Et là, ce qui me paraît important, c'est que tout à coup, on se rend compte que les inventions de départ seront partout les mêmes. Et la première chose qui va surgir, même si c'est le seul mot qu'on retient aujourd'hui, c'est bel et bien ce jaguar. Ce jaguar que vous avez pris à la forêt amazonienne en vous disant quelque chose de curieux. Essayez de vous mettre dans la peau d'un Indien. Tout ce qui est autour de vous est vivant. Cette forêt, j'ai mis une certaine ambiance tout à l'heure. J'ai créé cette crainte en même temps. J'ai mis certains animaux qui font déjà peur. J'ai parlé de l'alligator, j'ai parlé de ce jaguar, j'ai parlé du aigle harpille. Si vous êtes en altitude, vous pouvez penser au condor, vous allez penser à l'aigle lui-même. Et tout le vautour. Et tout cela va devenir quelque chose qui vous obsède, qui est vivant et qui a presque une force que vous n'avez pas forcément comme humain. Vous êtes les derniers arrivés, vous êtes les derniers développés, les derniers à penser. Vous êtes un peu magicien, vous resterez sorcier jusqu'à la fin de l'histoire précolombienne. colombienne. Et le jaguar, eh bien pour moi, quand je l'évoque, c'est le seul animal capable d'ingurgiter toute la chaîne alimentaire. Un jaguar, il peut sortir la nuit. Il a un pelage tacheté qui rappelle les étoiles. Il a des yeux jaunes extraordinaires et il a une façon de loucher, de vous regarder, de vous fixer. Et puis, il a des crocs extraordinaires. Et ces crocs, au moment où il mange quelque chose, il fait pénétrer cela dans son intérieur. Et cet intérieur, c'est une sorte de machine qui broie tout et qui est capable de passer du petit brin d'herbe jusqu'à l'homme. C'est-à-dire que tout ce qui est mangeable a été mangé. Et le dernier qui mange tout cela, c'est bel et bien le jaguar. Donc il est, lui, la machine broyeuse, le seul à tenir toutes les énergies vivantes à l'intérieur de son ventre. Alors c'est normal que sur les premières sculptures, son ventre même devienne une mâchoire, que toutes les parties de son corps deviennent mécaniques. Je fais involontairement, en même temps que je vous parle, le geste. Mes mains sont en train de s'ouvrir et de se fermer, comme si je griffais, comme si je prenais, comme si j'avalais. Et à partir de là, ce jaguar va devenir dans la tête des Indiens non seulement l'animal prédateur par excellence, mais le jaguar, l'animal qui devient Dieu, celui qui fera qu'on sera obligé en tant qu'homme sorcier, chaman, de se lier au jaguar, de devenir homme jaguar. C'est-à-dire que si la nuit j'apparais ou j'arrive à rêver ou j'arrive à passer dans l'autre monde, qui est l'obsession de l'Indien, grâce à la drogue, grâce au sommeil, grâce à l'alcool, grâce au tabac et tout ce qu'il a inventé comme véhicule, bah oui, il est vraiment au volant de quelque chose. Et là, il a le droit de se transformer. Ce n'est plus une coccinelle, ça devient un jaguar ambulant. Il peut même aller chez son voisin, il peut pénétrer chez quelqu'un. On roule vraiment avec des animaux et des forces obscures et des forces nocturnes qui sont les plus puissantes. Et le jaguar, j'ai dit nocturne, vous l'avez compris. Donc il est sous vos pieds. Donc obligatoirement, il représente en même temps cette terre, cette espèce d'humus incroyable qui est capable de tout avaler. Il vient de manger le soleil ce soir dans un bain de sang, il va le recracher demain matin. Voilà l'espace qui se dessine. Ce jaguar est en dessous de vous, il est capable de tout. Il est celui qui broie, mais il est celui qui donne aussi la vie, bien sûr. Celui qui, par la terre, est capable de faire ressurgir quelque chose, de faire renaître quelque chose. Eh bien ça, c'est né en Équateur. Et on le voit sur toutes les poteries, on le voit sur toutes les idées sacrificielles, on le voit sur tous les motifs. Il y a systématiquement quelque chose d'anthropomorphe, c'est-à-dire on a l'impression de voir un visage d'homme, mais il y a déjà l'allure, la gueule du jaguar, les crocs fabuleux, et puis quelque chose de fantastique chez le jaguar. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un chat ou un félin, lorsqu'il est concentré, il est complètement froncé, il y a quelque chose qui se place au milieu du front, comme quelque chose de fantastiquement puissant, comme un troisième œil qui se plisserait avec la peau. Eh bien, vous le verrez sur toutes les statues, sur toutes les choses précolombiennes, on a cette espèce de puissance du centre, on a cette façon de loucher. Tous les Indiens précolombiens de la noblesse vont se mettre une petite boule de cire au bout d'une mèche de cheveux à la hauteur du menton pour qu'en quelques jours, en quelques semaines, le bébé se mette à loucher. Il ressemble au jaguar. Enfin, il y a une sorte d'identité comme ça avec cet animal prédateur par excellence. Je pourrais reprendre les autres, bien sûr. Le premier jour du monde, c'est un alligator qui monte à la surface de l'eau et qui crée les montagnes. Ça, c'est l'origine et la genèse. Mais le jaguar, il restera à l'obscurité. Il restera ce chiffre 9, ces étages. Je crois que la dernière fois, on avait parlé déjà de ce nadir, de cet espace inférieur. Là, c'est peut-être un peu plus complexe, mais simplement pour vous dire que s'il est né dans cette région de l'Équateur, un jour, il va prendre un radeau et il va monter le long des côtes de Panama. Il va arriver peut-être sur la côte du Guatemala, qu'on commence à peine à exploiter en archéologie. On y trouve justement des choses incroyablement anciennes, 2000, 2500 avant Jésus-Christ, un peu plus haut. On a maintenant le Mescala. On en a exposé il y a quelque temps à Genève, lors de la grande exposition du musée Rath. C'est une civilisation totalement méconnue, avec des galets sculptés de façon incroyable, eh bien ça remonte aussi à 1500, 2000 avant notre ère. Et puis, vous repassez un poignet et vous vous trouvez dans les jungles de tout à l'heure, dans ces marécages de la Venta et de la zone Olmèque. Voilà que le Mexique est né, sa première civilisation est là. Vous venez de voir monter vers le ciel quelque chose comme un cône. Oui, je vais l'appeler un cône, ou plutôt quelque chose qui ressemble à un volcan. Vous imaginez une belle forme de volcan, un peu comme les Vésuves de votre enfance pour le 1er août? C'est un peu cela qu'on a construit d'abord. C'est la première pyramide que l'on va construire au Mexique. Elle a des côtés un peu cannelés comme cela, mais elle monte vraiment comme un volcan. On l'imagine à 40 et quelques mètres de hauteur. Vous êtes sur une espèce d'île dans un marécage impossible. Une île qui a une forme, elle ressemble à un 8. Et cette pyramide est curieusement placée au milieu du 8, dans la partie la plus étroite, comme si on avait mentalement dragué des deux côtés la boue pour la faire monter petit à petit, comme le fera un enfant sur une plage, pour créer cette première pyramide. Et puis autour, vous allez jeter sur les places, je ne sais pas, des blocs de 50, 100 tonnes, si ça vous fait plaisir, et vous allez commencer à les tailler. Mais attention, je vous ai dit qu'il n'y avait que de la boue. Ces blocs de basalte, on est allé les chercher à 100, 130 km de là. Et on les a carrément décrochés de cette roche basaltique d'une région un peu volcanique. Ça ressemble à l'Auvergne, vous savez, avec des petits volcans déjà tout éteints, tout sympathiques, avec des lacs d'opale, avec un paysage d'une luxuriance fantastique. C'est un peu l'origine comme ça, le lieu des dieux, le lieu de la pierre. On a l'impression que les Olmèques ont pris ces blocs géants, ils les ont posés sur des radeaux. Et on imagine la peine, hein, sur 100 km, pousser cela dans les marécages, arriver jusqu'à la Venta, et puis commencer à sculpter ces têtes absolument géantes qui font jusqu'à 2,60 m de haut. La plus grande qu'on ait trouvée, elle fait 3,40 m de hauteur. C'est un seul bloc de pierre. Et sur ces têtes, je crois qu'on en a trouvé 17 aujourd'hui dans l'ensemble du monde Olmèque, eh bien celle de la Venta, la numéro 1 est peut-être la plus belle. Oh, j'aime pas qu'elle ait un numéro, parce que pour moi, c'est celle du plus haut et du plus beau personnage que les Olmèques nous aient laissé. Qu'est-ce qu'il a ? 35 ans peut-être. Oui, il doit avoir quelque chose comme 35 ans. La première fois où je l'ai vu, je me suis dit que je dialoguerais toute ma vie avec lui. C'est curieux, il y a des têtes un peu comme certains Bouddhas. Vous vous trouvez devant eux et vous vous dites, tiens, c'est non seulement la méditation, mais c'est cette force intérieure incroyable. Vous voyez le jaguar. Un jaguar, ça a quelque chose de terrifiant. Ce bonhomme est plissé, il louche, effectivement, il a des babines carrément, des lèvres beaucoup trop marquées avec deux points aux commissures qui donnent cette puissance du jaguar. Mais en même temps, il a quelque chose de doux. Il a été taillé en oblique comme cela afin que le front, le nez, la bouche soient tous éclairés par le soleil zénital. C'est-à-dire que le sculpteur a mis en avant chaque morceau du visage. Vous imaginez ? Le front est tout en avant, en bas. Ensuite, vous suivez par les lèvres, vous aurez le nez complètement écrasé, épaté, et puis vous avez ses yeux qui sont encore éclairés, et naturellement le front. Et il a mis tout ça en oblique afin qu'on n'ait qu'une seule image et une seule lumière. Une expression absolument incroyable. C'est plus de la troisième dimension, ça vous pénètre à l'intérieur. Il fait effectivement 2,20 m, 2,30 m de hauteur. Il est posé comme ça, sur le sable, dans le parc archéologique de la Venta. Et il nous regarde depuis plus de deux millénaires. Et je dirais que l'expression qu'il a, c'est la puissance et en même temps ce côté spirituel, cette force intérieure d'un homme, d'un chaman, qui se sent peut-être jaguar, parce qu'il a cette puissance du jaguar. Il est celui qui va dire à ses premiers agriculteurs, « Mettez simplement un grain de maïs, vous verrez, je ferai le reste. » Il avait vraiment le pouvoir absolu. C'est un peu lui qui va dire, « Prenez de la boue, faites un volcan, imitez nos volcans, montez vers le ciel, faites la première pyramide, faites la première forme parfaite qui monte vers le zénith, et puis placez encore quelques blocs incroyables. Et puis, sous le sol, vous allez mettre quelques tonnes de cailloux, des cailloux de couleur verte, parce que tout va devenir vert à partir de ce jour-là. Les masques, les haches, les offrandes, ces blocs à peine équarris, qui ont été cherchés, ouais, on est allé les chercher à 700, 800, 1000 km de là. Vous voyez, un petit bandeau sur le front, vous arrivez avec 40 kilos, le suivant vous suit aussi, vous en mettez quelques tonnes dans une fosse de 10 ou 15 mètres de profondeur, vous recouvrez avec de l'argile de couleur rose, blanche, jaune, bleue, que vous avez été chercher à des dizaines ou des centaines de kilomètres, et puis vous arrivez sur le sol, il n'y a plus rien, tout est en sous-sol. Vous sentez ? Je parle à l'inframonde. Je parle à quelque chose qui grouille. C'est un peu comme si je pénétrais dans l'estomac du jaguar. Vous sentez ? Il y a de la vie, ça broie, ça travaille. L'agriculture est née, vous en avez pour deux millénaires avant que les Espagnols viennent tout flanquer par terre.
Thank you. Yeah.